de la Bible elle-même. Et je pense notamment à une réflexion que faisait un visiteur du pays d'Israël au XIXe siècle, il s'appelait Ernest Renan, et c'était il était professeur au Collège de France, il était un des nombreux visiteurs qui avaient visité le pays d'Israël à cette période. Et en rentrant, il avait eu cette réflexion très juste. Le pays d'Israël, c'est le cinquième évangile. Et il est difficile, en effet, de séparer la Bible de son environnement géographique, naturel, etc. Et c'est un peu ce que nous allons faire cet après-midi et demain matin. Et donc, le thème que nous aborderons plus spécialement, parmi tous les éléments qui constituent cette botanique biblique, c'est le pain, le vin et l'huile. Et je voudrais faire plusieurs lectures pour introduire ce thème. Tout d'abord, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 9 et au verset 7. C'est un texte qui, dans la tradition juive, est très important. Je vais expliquer pourquoi dans un instant. « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras ton pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes desquelles tu extrairas du bronze. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. » Et nous lisons un deuxième texte, toujours dans le livre du Deutéronome, au chapitre 11 et au verset 10, à partir du verset 10. « Car le pays où tu vas entrer pour en prendre possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis et où tu jetais ta semence en l'arrosant à l'aide de ton pied comme dans un jardin potager. Le pays dans lequel vous passez pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées où l'on boit les eaux de pluie du ciel et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous donne aujourd'hui pour aimer l'Éternel votre Dieu et pour lui rendre un culte de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, celle de l'automne et celle du printemps, et tu recueilleras ton blé, ton vin et ton huile. » Voilà ici le texte qui va nous servir de point de départ pour notre réflexion. Tu récolteras ton blé, ton vin et ton huile. Et puis je voudrais lire un troisième et dernier texte où il est question de ces trois produits, dans le psaume 104, et le verset, à partir du verset 13. Les hôtes, la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service des humains, pour tirer le pain de la terre. Première chose. Deux, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et trois, et qui plus que l'huile fait resplendir son visage. Le pain, le vin et l'huile, trois produits qui sont également cités dans ce psaume. Je voudrais tout d'abord m'arrêter quelques instants sur le premier de ces trois textes. Dans le chapitre 7 du livre du Deutéronome, verset 7, ce que l'on appelle le texte relatif aux sept espèces du pays de Canaan. Et la tradition d'Israël a souligné l'importance de ces sept produits du pays de Canaan, sept espèces. Sept produits, le froment, hein, deux, l'orge, trois, les vignes, quatre, les figuiers, cinq, les grenadiers, six, les oliviers et sept, le miel. Sept produits du pays de Canaan. Sept, vous le savez, c'est un chiffre particulier dans la Bible. c'est le chiffre de la plénitude. Et dire qu'il y a 7 produits essentiels dont le peuple d'Israël sera rassasié dans le pays de Canaan, c'est dire qu'il va recevoir la plénitude de la bénédiction de Dieu pour ce qui est de sa nourriture. Et comme le dit le texte suivant, le verset suivant, « Tu mangeras, tu seras rassasié, et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. » 7 espèces qui ont un certain nombre de particularités. La première, c'est que ce sont des produits qui vont dépendre d'une période très, très spéciale pour réussir ou non, pour arriver ou non à maturité, qui est la période entre Pâques et Pentecôte. Cette période, on l'appelle la période de l'homère. Et c'est une période très, très délicate dans l'année agricole, à l'époque biblique, parce que là vont être scellés le sort de ces 7 espèces, même si elles n'arrivent pas à maturité tout en même temps, mais leur sort est scellé à cette période. Et parce que ce sont ces espèces qui sont dont la période de l'homère est le temps décisif dans la tradition juive, ce sont les seules espèces dont on va offrir au Seigneur les prémices dans le temple à 2 occasions. La première pour la fête de Pentecôte et la deuxième pour la fête de Soukhot, c'est-à-dire pour la fête des tabernacles. Et en quoi cette période de l'homère est-elle décisive? Eh bien, parce que la maturation de ces 7 produits dépend d'un équilibre délicat entre le vent du nord, qui est un vent froid et humide, qui doit souffler pendant la première partie de cette période de l'homère et qui est indispensable pour que les produits qui arrivent les premiers à maturité, à savoir le blé et l'orge, puissent le faire d'une manière abondante. Et la deuxième partie de cette période, au contraire, doit voir prédominer un vent du sud, un vent qui vient du désert, un vent qui est chaud et sec et qui est indispensable pour la maturation, notamment de l'huile, de l'olivier. Et si cet équilibre délicat entre les dernières pluies qui doivent tomber dans cette première période, qui sont amenées par le vent du nord, et le moment où commence l'été, c'est-à-dire le vent sec et chaud qui vient du désert, si cet équilibre-là n'est pas au rendez-vous, alors la maturation de ces 7 espèces va être également compromise. Et évidemment, comme le dit le texte du Deutéronome que nous avons lu, il y a une particularité du pays d'Israël par rapport au pays d'Égypte dont les Israélites sont sortis. En Égypte, la pluie, ce n'est pas du tout indispensable. L'Égypte, sa fertilité dépend essentiellement d'un des plus grands fleuves du monde, le Nil. Comme disait l'historien grec Hérodote, l'Égypte est un don du Nil. Et même s'il manque de pluie, en Égypte, ce n'est jamais un problème. Il y a toujours les crues du Nil, qui ne dépendent pas de ce qui se passe dans le pays d'Égypte, mais de ce qui se passe en amont. Et comme le dit le Seigneur ici à Israël, quand tu étais dans le pays d'Égypte, tu n'avais aucun souci pour ta nourriture. Tu semais ta semence, et avec ton pied, tu faisais depuis le Nil une rigole pour amener l'eau jusque dans ta parcelle de terre. Et tu étais sûr que les choses allaient arriver à maturité. Mais dans le pays d'Israël, dans lequel tu vas rentrer, il n'en est pas ainsi. Il y a bien le Jourdain, mais le Jourdain, par rapport au Nil, est un tout petit fleuve. Et par conséquent, la prospérité du pays va dépendre essentiellement du régime des pluies. Et sur le régime des pluies, l'homme n'a aucune prise. Cela dépend uniquement de Dieu. et face à ces pluies qui sont indispensables, en leur temps, nous est-il dit, eh bien, l'Israélite n'a que deux solutions. La première, c'est la prière. Et notamment la période de l'Omer. Cette période qui sépare Pâques de Pentecôte est une période de prière. Et l'on prie pour qu'il y ait cet équilibre important entre ces deux vents, le vent du nord et le vent du sud. Et le deuxième moyen, eh bien, c'est comme le dit notre texte, l'observation des commandements de Dieu. La prospérité du pays, nous dit le livre du Deutéronome, est directement dépendante et en relation avec la fidélité du peuple d'Israël à la Torah, c'est-à-dire aux commandements de Dieu. Et à cause de ces deux réalités, eh bien, on trouve aussi des symboles qui rappellent constamment au peuple d'Israël qu'il doit s'attacher à ces deux activités essentielles spirituellement pour que la bénédiction de Dieu soit au rendez-vous. Un, la prière. Deuxièmement, l'observation des commandements de Dieu. La prière, j'ai dit tout à l'heure que la période de l'Omer était une période spéciale de prière. Elle l'est encore aujourd'hui, même si aujourd'hui on est un peu moins dépendant qu'on ne l'était à l'époque biblique de ces régimes des pluies parce qu'on a des moyens techniques que les anciens Israélites n'avaient pas. Mais il y avait aussi le temple. Avant le temple, c'était le tabernacle. Et le tabernacle était orienté également d'une telle manière qu'on retrouve aussi cette symbolique. Et dans le lieu saint en particulier, il y avait différents objets. Et en particulier, il y avait une table qu'on appelait la table des pains de la face. C'était une table sur laquelle il y avait 12 étagères, sur laquelle on plaçait chaque semaine 12 pains qui étaient fabriqués avec la meilleure farine, le meilleur froment, parce que la règle, qui est toujours valable aujourd'hui, c'est toujours d'offrir au Seigneur ce que l'on a de meilleur. Et cette table des pains, elle était située au nord, dans le lieu saint. Et puis, au sud de ce lieu saint, il y avait un autre objet. C'était le chandelier à 7 branches. Et dans le chandelier à 7 branches, on brûlait de l'huile d'olive. Et voyez-vous, nous retrouvons ici cette symbolique entre les deux vents. Pendant la première partie de l'Omer, il faut que souffle le vent du nord qui apporte la pluie et le froid. Et nous avons vu que ce vent du nord est indispensable pour la maturation de l'orge et du blé, c'est-à-dire des produits avec lesquels on fabrique le pain. Et par contre, le vent sec et chaud du désert doit souffler dans la deuxième période depuis le sud pour la maturation des olives dont on tirait l'huile. Et chaque jour, par conséquent, ou chaque semaine, il y avait des prières spéciales qui montaient pour que, même si on était loin dans l'année de cette période de l'Omer, quand elle reviendrait, que la bénédiction de Dieu soit au rendez-vous. Et placer la table des pains au nord, c'était prier pour que le Seigneur envoie le vent du nord au temps voulu, et qu'ainsi le pain que l'on offrait au Seigneur puisse arriver à maturité. Placer le chandelier au sud, c'était prier pour que, c'était chaque jour prier, chaque jour on allumait le chandelier, pour que Dieu envoie le vent sec et chaud du sud, pour que l'olivier arrive à maturité. Et chaque semaine, selon ce qui nous est rappelé dans la Torah, on offrait au Seigneur ces trois produits, le pain, le vin et l'huile. C'était en même temps une offrande au Seigneur, bien sûr, mais aussi une prière pour que le Seigneur bénisse spécialement ces trois espèces parmi les sept espèces que nous avons évoquées tout à l'heure. Et dans le chapitre 11, nous voyons qu'il y avait trois espèces qui avaient une importance particulière par rapport aux autres, quatre autres. Parmi les sept espèces, les plus importantes étaient le pain, le vin et l'huile. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce qu'elles sont, à l'époque de la Bible, la base de la nourriture de l'homme. Et deuxièmement, parce que ce sont les trois espèces qui demandent le plus de travail pour pouvoir être consommables. Et vous vous souvenez de cette parole qui avait été prononcée par Dieu dans le jardin d'Éden, « Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. » Et parce que ce sont les trois espèces qui demandent le plus de travail, ce sont celles aussi qui sont le plus délicates pour arriver à un état où elles vont être consommables en abondance. Et sur ce travail qui est le travail de l'homme, il faut que Dieu mette sa bénédiction. Comme le dira Salomon dans le psaume 127, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et par conséquent, si l'on travaille sans la bénédiction de Dieu, on aura beau se donner de la peine, on aura beau suer de toutes les pores de son corps, la bénédiction de Dieu ne sera pas au rendez-vous. Et quand l'homme a fait sa part, et il doit la faire, il doit compter sur la grâce et sur la bénédiction de Dieu. Donc ici, premier point, importance de la prière. Deuxième point, importance du respect des commandements de Dieu. Et c'est quelque chose que toute l'Écriture affirme. Dans la Torah d'abord, ça veut dire dans les livres de Moïse, et ensuite chez les prophètes. La bénédiction de Dieu, et la bénédiction de la terre en particulier, dépend de l'observation des commandements de Dieu. Si le peuple se détourne des commandements de Dieu, Dieu enverra la sécheresse, il refusera la pluie, et alors ce sera la catastrophe. Et la Bible évoque quelques-unes de ces périodes où Dieu a agi de cette manière parce que son peuple s'était détourné de lui et lui était infidèle. Je citerai simplement un seul exemple, l'époque d'Akab. Lorsque, sous l'influence de Jézabel, le peuple d'Israël s'était détourné de son Dieu et s'était tourné vers les idoles et vers le Baal en particulier. Le Baal qui, entre parenthèses, dans la mythologie cananéenne, était le dieu de la fertilité. Et finalement, le peuple d'Israël, à l'époque d'Akab, avait considéré que le Baal, l'idole cananéenne, était plus fiable que le Dieu d'Israël pour cette bénédiction des récoltes. Et il s'était détourné du Dieu d'Israël pour se tourner vers le Baal. Et par l'intermédiaire du prophète Élie, vous vous en souvenez, Dieu a frappé le pays d'une famine sévère, 3 ans d'une famine épouvantable, où on a été même obligé d'abattre le bétail parce qu'il n'y avait plus de fourrage pour donner à manger au bétail. Et Dieu a voulu montrer que, contrairement à ce que pensaient les Israélites, Baal était incapable de donner la bénédiction et que c'était lui, le Seigneur, et lui seul qui accordait la bénédiction. Et lorsque Élie a rétabli l'autel de Baal après la confrontation du mont Carmel, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a envoyé la pluie et par conséquent, il a envoyé la prospérité. Il y a donc relation étroite entre la bénédiction matérielle et l'observation des commandements de Dieu. Et là aussi, un certain nombre de symboles l'évoquent jusqu'à nos jours dans la vie du peuple d'Israël. Et notamment dans ce qu'on appelle les mezouzot. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une maison juive. Et si vous y êtes allé, vous constatez que sur la porte, juste à l'entrée de la porte, il y a un petit étui de métal ou de bois avec une lettre hébraïque qui est gravée dessus, qui est le Shin. Ça veut dire Shaddai, ça veut dire c'est un des noms de Dieu. Et en général, quand un juif entre dans cette maison, avant de franchir le seuil de la porte, il touche ce petit étui qu'on appelle une mezouza, et il l'embrasse. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de cet étui, il y a un petit rouleau de parchemin sur lequel sont écrits les 10 paroles, les 10 commandements de Dieu. Et non seulement il y a ces 10 commandements qui sont écrits, mais il y a également ce texte que nous avons lu tout à l'heure dans le livre du Deutéronome. Si tu observes ces commandements que je te prescris aujourd'hui, donc ces 10 paroles, si tu les mets en pratique, alors tu seras béni et tu récolteras ton pain, ton vin et ton huile. Ce verset est écrit dans la Mezouza parce que, justement, c'est un rappel permanent à l'Israélite que s'il veut être rassasié par la bénédiction de Dieu et jouir de ce bon pays que Dieu lui donne, il est indispensable qu'il observe les 10 paroles, les 10 commandements de Dieu. Et cette injonction, elle est essentielle, elle est capitale. Et chaque fois qu'on entre dans une maison, on se souvient de cette relation entre les commandements de Dieu et la bénédiction qui s'ensuit. Si tu observes ces commandements, dit un autre texte que nous avons lu également, alors j'enverrai la pluie en son temps, la pluie d'hiver, la pluie d'automne, la pluie d'hiver et la pluie de printemps. Il y en a fait 3 types de pluie. Ça, j'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Dans l'année juive, dans l'année israélite. D'abord, il faut savoir que l'été est une période de sécheresse totale. Entre avril et octobre, il ne tombe en principe aucune goutte d'eau pendant 6 mois. Et le pays ne peut vivre que grâce à un autre phénomène naturel qu'est la production de la rosée. À cause des contrastes entre les températures de la nuit et du jour, il y a en Israël, pendant cette période d'été, une abondante rosée. Et après Pâques, le lendemain de Pâques, quand en principe commence l'été, puisque l'été, qui vient beaucoup plus tôt que dans nos régions, l'été commence le lendemain de Pâques. Et par conséquent, c'est la fin des pluies. On cesse de prier pour la pluie. On prie pour la rosée. Il en sera ainsi jusqu'à la période de Soukhot, c'est-à-dire la fête des tabernacles qui, elle, se célèbre à la fin de l'été. Et si les premières pluies ne sont pas tombées pendant la semaine de Soukhot, alors on va prier pour la pluie. Et là commencent les premières pluies, qui sont les pluies d'automne, qu'on appelle les yoré. Et yoré, c'est un mot très intéressant. C'est un mot qui est à la même racine que le mot Torah. Il y a une relation aussi entre les premières pluies et la Torah. Yoré, lirot, ça vient d'une racine qui signifie littéralement en hébreu « viser un but ». Comme un archer qui vise le centre d'une cible et qui tape dans le mille. C'est ça le sens du mot yoré. Et c'est ça le sens du mot Torah. Et vous avez cette relation qui nous est évoquée, par exemple, dans le chapitre 55 du livre du prophète Ésaïe, qui nous dit ceci, « De la même manière que la pluie et la neige ne tombent pas du ciel sans avoir fécondé la terre, sans avoir donné de la semence à celui qui sème et la récolte à celui qui moissonne. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans avoir atteint le but pour laquelle je l'ai prononcé, pour laquelle je l'ai envoyé. » Donc voyez-vous, Torah, c'est viser un but. Voyez-vous, quand nous traduisons le mot Torah par loi, eh bien nous appauvrissons considérablement le terme. Parce que la Torah, c'est comme la pluie. Et vous retrouvez ça, par exemple, dans le chapitre 32 du livre du Deutéronome, dans ce qu'on appelle le cantique à Azinou, ça veut dire le cantique de Moïse, le cantique prophétique qu'il prononce avant sa mort, et dit ceci, « Ciel, écoutez, d'où le mot Azinou, Azinou, Shamaim, Ve'adabra, écoutez, cieux, et je parlerai, terre, et j'ouvrirai ma bouche, que ma parole soit comme la pluie, et les paroles de ma bouche comme la rosée du ciel. » Par conséquent, la Torah, la parole de Dieu, est comparée à de la pluie. Et quand on assiste aux chutes des premières pluies à la fin de l'été, au début de l'automne en Israël, on comprend beaucoup mieux cette image. Comme je vous l'ai dit, pendant à peu près 6 mois, il n'est pas tombé une seule goutte d'eau. Et quand on arrive à la fin de l'été, alors le pays est totalement sec. Il n'y a pratiquement plus de végétation disponible et c'est une vision qui n'est pas spécialement engageante. Mais dès que tombent les premières pluies, et ces premières pluies, les pluies d'automne, elles ont ceci de particulier, c'est qu'elles sont en général assez courtes, 2, 3 heures, 4 heures maximum, puis le beau temps revient. Mais elles tombent avec une grande violence, une grande abondance. Et lorsque ces premières pluies sont tombées, on a l'impression que c'est un miracle qui se produit. Ce pays qui était sec, ce pays qui était réduit à un désert, se met immédiatement à fleurir. Même le désert. Et mon fils qui vit dans le désert vous expliquerait qu'il y a des plantes très spéciales dans le désert, des fleurs très spéciales, qui savent s'adapter à cette condition très particulière qu'est celle du désert, et qui, en quelque sorte, se recroquille, se referme sur elles-mêmes et s'enferme dans une espèce de carapace où elles vont subsister pendant toutes les périodes de sécheresse. Mais qu'il vienne de la pluie, qu'il vienne un peu d'eau, et cette carapace s'ouvre et des fleurs d'une beauté à couper le souffle apparaissent. Elles pourront fleurir parfois seulement quelques heures, quelques jours, si les pluies ne continuent pas à tomber. Et puis, elles retourneront dans leur état de léthargie jusqu'au moment où surgiront d'autres pluies. Et on a l'impression que le désert est en train de ressusciter. Et les sages d'Israël ont dit ceci. Le jour de la pluie, le jour des premières pluies, le jour des yorés, est plus important que le jour de la résurrection des morts. Parce que on avait effectivement l'impression que lorsque tombent ces premières pluies, le pays tout entier ressuscite. Il connaît une véritable résurrection. Pourquoi le jour de la pluie, des premières pluies, est-il plus important que la résurrection des morts? Parce que, nous disent les sages, le jour de la résurrection des morts, seuls les justes auront part à ce miracle. Mais quand viennent les premières pluies, les justes et les méchants sont visités par la grâce de Dieu. Et je vous renvoie à une parole de Jésus qui nous dit quelque chose d'un peu semblable. Il nous parle de cette bonté de Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Parce que, nous dit Jésus, nous sommes dans cette période où Dieu manifeste sa bonté. Dieu laisse de côté pour un temps sa justice jusqu'au temps de la fin, jusqu'au temps dernier. Et pour l'heure, Dieu manifeste sa bonté à tous les êtres humains. Et c'est une raison pour laquelle lui, Jésus, l'envoyé de Dieu, l'envoyé du Père, eh bien, accueillait les publicains, les prostituées, les péagers, les pécheurs, bref, tous ceux qui, en principe, auraient été rejetés parce que c'était le temps de la bonté et de la visitation de Dieu, comme il en est lorsque viennent ces premières pluies, qui en sont précisément l'anticipation prophétique, y compris dans le réveil de la nature. Et par conséquent, ça, ce sont des pluies qui sont extrêmement importantes, parce qu'elles vont déterminer aussi l'époque des semailles. Semailles pour ce qui est du blé, notamment. Et la période des semailles est une période très spéciale dans la Bible. Il y a un psaume en particulier qui évoque cela, c'est le psaume 126, qui nous dit ceci, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient chargé d'allégresse quand il porte ses gerbes. » Et la Bible fait ainsi une différence entre le temps des semailles et le temps des moissons. Le temps des semailles, c'est un temps difficile, c'est un temps de larmes. C'est un temps d'incertitude, parce que le semeur va jeter sa semence, et puis il ne sait pas ce qui va en advenir de cette semence-là. Est-ce qu'elle va germer ? Il y a tellement d'impondérables, nous en avons parlé tout à l'heure. Est-ce que ce régime des vents va être au rendez-vous ? Est-ce que les pluies vont être suffisantes ? Il y a beaucoup, beaucoup de questions que l'agriculteur se pose. Et est-ce qu'il n'est pas en train de gaspiller ce qui aurait dû faire son pain quotidien ? Et quand nous lisons, par exemple, une parabole, la parabole du semeur, nous voyons ce qui peut arriver à cette semence qui est jetée. Et Jésus nous montre que certaines conditions peuvent être telles que l'essentiel de la semence est perdu. Une partie est mangée par les oiseaux, une deuxième partie ne peut pas germer parce qu'il y a des pierres qui empêchent sa germination, et une troisième partie est étouffée par les épines, les chardons, ça, on pourrait parler beaucoup de chardons, c'est ce qui pousse le mieux en Israël. Et en particulier ce qu'on appelle le galgal, qui est une plante terrible, qui étouffe justement le bon grain. Alors, c'est une période de larmes, c'est une période difficile. Il a d'abord fallu labourer, il a fallu ôter les pierres. Et la pierre, comme disait les Israéliens avec humour, c'est ce qui pousse le mieux là-bas, c'est ça le problème. Et l'on sait, par la parabole du semeur, ce que peut être la conséquence d'un terrain pierreux, justement, par rapport à cette semence qui va être ainsi jetée. Et pourtant, eh bien, il peut se produire que si cette graine tombe dans de la bonne terre, alors elle va porter un fruit abondant. Et pourquoi ? Parce que, quelque part, il y a la bénédiction de Dieu. Et malgré les conditions défavorables, qui peuvent être le résultat, justement, de l'action de l'adversaire, eh bien, arrivera le temps de la moisson. Et autant, la période des semailles est une période difficile, une période de douleur, eh bien, autant le temps de la moisson est un temps de joie. Et dans le livre du prophète Ésaïe, vous retrouvez ça. « Car le peuple se réjouit d'une grande joie. » On trouve ça dans le chapitre 9, le texte qui est un texte messianique qui annonce « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, etc. » Et le peuple se réjouit d'une grande joie, une joie qui est semblable à celle que l'on connaît au moment de la moisson. Pourquoi la moisson est-elle un temps de joie, par opposition au temps des semailles ? Parce que là, au moins, on a du tangible. On sait exactement où l'on en est. Et là, on se trouve devant ce don de Dieu, ce cadeau merveilleux de Dieu, qu'est cette récolte abondante qui va nous permettre de manger, d'être rassasiés et de bénir Dieu pour le bon pays qu'il a donné. On est arrivé au but. Et si je prolonge cette pensée, notamment au travers des évangiles, où Jésus a souvent utilisé cette image des semailles et des moissons, il l'a fait pour évoquer la différence entre ces deux venues. Et il le fait dans ce que l'on appelle les paraboles du royaume, ainsi nommées, parce qu'elles commencent par cette expression « le royaume des cieux est semblable a. Et Jésus évoque tout d'abord un certain nombre de paraboles où il est question de semailles. J'évoquais la parabole du semeur tout à l'heure. On pourrait aussi parler de la parabole du bon grain de l'ivraie. D'autres paraboles moins importantes dans l'évangile de Marc, qui ne trouve nulle part ailleurs, la parabole du grain de Senevé, bref, tout un certain nombre de paraboles qui évoquent ce temps des semailles. Et ça, c'est sa première venue, dit Jésus. Il est ce semeur qui vient comme homme de douleur. Il va semer dans les larmes. Semer dans les larmes, d'autant plus qu'il est parfaitement conscient que cette parole qu'il sème, qui est cette semence-là, eh bien, elle va subir de très, très nombreuses oppositions. Des oppositions de la part de l'adversaire et de ceux qui ont pris le parti de l'adversaire. Et par conséquent, la situation pourra sembler tellement dramatique qu'on pourra même penser que le ministère de Jésus est un échec. Et ces paraboles sont données pour encourager les disciples à regarder au-delà de cet échec apparent. Parce que s'il est vrai que ce sera un temps de douleur qui se terminera par la croix, il y aura un autre temps, qui sera un temps de moisson. Parce que, quelque attaquée que soit cette semence, elle finira par trouver une bonne terre. Et même si cette bonne terre est très très limitée, la semence du royaume est tellement puissante, contrairement aux apparences, que simplement un petit arpent de bonne terre va donner une moisson énorme, tellement abondante, qu'on a de la peine à même l'imaginer. Un grain en donne 100, un autre 50, un autre 30. Et ce n'est qu'au dernier jour que l'on réalisera la puissance du royaume de Dieu, la puissance de la parole. Et autant la première venue de Jésus aura été un temps de larmes pour lui-même et pour ses disciples, autant son retour sera pour lui-même et pour ses disciples un temps de joie et un temps d'allégresse. Alors, je voudrais maintenant parler de ces trois espèces les unes après les autres. La première, donc, le pain. Le pain, j'en ai déjà un peu parlé. Ce pain, c'est quelque chose, c'est très intéressant, c'est un agronome israélien, ingénieur agronome, qui s'appelait Aaron Aaronson, qui vivait au début du siècle dernier, qui a mis en évidence le fait que la culture du blé, telle que nous la connaissons, est née au Moyen-Orient, et que le blé sauvage, en particulier, est originaire du pays d'Israël. Et donc, très tôt, le blé a été cultivé dans cette région de la terre d'Israël. Et là, donc, nous avons vu que c'est un symbole, le symbole de tous les besoins de l'homme. Pour la Bible, c'est le produit essentiel, même avant les deux autres, le vin et l'huile. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Et nous aurons l'occasion de voir demain comment Jésus nous invite à prier en disant « Donne-nous aujourd'hui notre pain ». Et quand nous disons « notre pain », ce n'est pas seulement la nourriture, mais nous allons le voir, c'est tous les besoins de l'homme, ses besoins matériels et ses besoins spirituels. Le pain est le symbole de cette nourriture dont l'homme a besoin pour subsister non seulement dans ce monde, mais également dans le monde qui vient. Et ce pain, pour être utilisé, il doit passer par plusieurs étapes. Étapes qui sont aussi des symboles spirituels importants dans l'Écriture. Lorsque on arrive aussi à cette période de la moisson, cette période de l'Homère, où, précisément, commence la moisson d'abord des orges. C'est l'époque, c'est d'abord les orges qui arrivent les premières à maturité, donc fin avril, début mai. Vous allez me dire, c'est tôt, c'est vrai, par rapport à nos pays, mais il faut bien réaliser que là-bas, le climat n'est pas tout à fait le même qu'ici, c'est un petit peu plus chaud. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, on récolte le blé. Vous trouvez ça, par exemple, dans le livre de Ruth. Et ce qui est très intéressant, c'est de noter que lorsque la fête de Pâques, le premier jour de la fête de Pâques prend fin, le 14e jour du mois de Nissan, le Shabbat qui suit Pâques, le soir du Shabbat, il y a une cérémonie spéciale, qui est l'offrande de la première gerbe qui a été récoltée. Et cette première gerbe, en général, elle a été coupée dans les champs de Capernaum. Pourquoi les champs de Capernaum ? Parce que la vallée du Jourdain est l'endroit le plus chaud du pays d'Israël, donc l'endroit où les orges sont les premières à arriver à maturité. Alors, bien entendu, pour respecter le Shabbat, on attend que le soleil soit couché. Et lorsque le soleil est couché, on coupait la première gerbe d'orge. Et cette gerbe était emmenée à Jérusalem par des coureurs qui se relayaient les uns les autres pendant toute la nuit, de telle manière que la gerbe arrive à Jérusalem avant le lever du soleil. Et lorsque le soleil se levait, le grand prêtre entrait dans le temple et dans le lieu saint, il déposait sur l'autel cette première gerbe qu'on appelait Bikurim, qui était offerte au Seigneur comme prémisse de cette moisson qui allait être ensuite engrangée. Or, l'année où Jésus est mort, nous disent les évangiles, Jésus est mort le vendredi, donc c'est-à-dire il est mort avant le Shabbat, puisque le Shabbat commence le vendredi soir. Et il y avait coïncidence entre la fête de Pâques, le premier jour de Pâques, c'était ce Shabbat, et en même temps, c'était un Shabbat. Si bien que l'offrande de la première gerbe avait lieu ce Shabbat où Jésus est mort. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est de constater que cette gerbe coupée à Capernaum, qui avait été le centre du ministère galiléen de Jésus, comme on le sait, Capernaum, c'est aussi très intéressant, c'est l'étymologie de ce nom, Kfar Nahum, ça veut dire le village de la consolation. Selon le terme de l'Évangile, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Et cette gerbe a été offerte dans le temple le matin du premier jour de la semaine avant le lever du soleil. Et il y a un autre événement, nous disent les évangiles, qui s'est produit à ce moment-là, vous le savez. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité au moment même où la première gerbe était offerte dans le temple. Et c'est pourquoi Paul nous dit dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, Jésus est ressuscité comme les prémices de ceux qui sont morts. Il était cette première gerbe de cette moisson de ressuscité qui se produira au moment de son retour. Le temps de la moisson sera un temps de joie. Autant sa première venue a été un temps de larmes qui s'est traduit par la croix, autant son retour verra, comme le dit l'apôtre Paul dans cette première aux Corinthiens, la résurrection de tous ceux qui auront espéré en lui et qui se seront endormis en lui. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Cette première gerbe qui a été présentée devant le Seigneur dans cette nouvelle dimension qui sera la vie éternelle, lui qui a mis en évidence la vie et l'immortalité, comme cela nous est rappelé. Maintenant, il y a un autre élément aussi qu'il nous faut prendre en compte, c'est au moment de la moisson, après la moisson, on n'est pas quitte quand on a ramassé les gerbes. Bon, moissonner à l'époque biblique, ce n'était pas une petite affaire, parce que on n'avait pas de moissonneuse-batteuse à l'époque. On faisait tout ça à la faucille. Et vous imaginez ce que ça pouvait représenter pour les reins. Plusieurs semaines de moisson, quand on avait des grands domaines, comme c'était le cas de Boaz, par exemple, dans le livre de Ruth, vous imaginez la quantité de travailleurs dont il avait besoin et la somme de travail que ça représentait. Et quand on avait fait ça, eh bien, on n'était qu'au début des peines. La deuxième étape de la fabrication du pain, c'était de séparer la paille et le bon grain. Et pour cela, on avait une technique qui était encore employée il y a peu par les Arabes avant la création de l'État d'Israël. On avait pour cela ce qu'on appelait des aires, A-I-R-E. Et une aire, c'était en général un rocher plat qu'on avait entouré par un cercle de pierre qui délimitait donc une certaine surface, une certaine superficie. Et la Bible nous parle, par exemple, de l'aire d'Ornan, le Yévoussien, sur lequel a été construit le temple de Salomon, qui est le rocher sacré qu'on trouve encore aujourd'hui sous le dôme du rocher, ce qu'on appelle improprement la mosquée d'Omar, sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et sur cette aire, sur ce rocher, on plaçait les gerbes qu'on venait de moissonner. Et là, on faisait passer, comme cela nous est dit dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 52 ou 51, je crois, un traîneau, c'est-à-dire une planche, en dessous de laquelle il y avait soit des crochets de fer, soit des silex très durs. On attelait ce traîneau à une bête de somme, un âne ou un bœuf. On mettait quelqu'un dessus qui avait du poids, pas un gringalet, pour faire du poids. Puis on faisait tourner l'animal sur les gerbes qui avaient ainsi été récoltées. Vous avez ça dans ce texte d'Ésaïe 51, où le Seigneur dit à Israël, « Je ferai de toi un traîneau neuf garni de pierre. » Et tu écraseras les nations, tu écraseras tes ennemis, comme précisément ce traîneau écrase ses gerbes. Et cette manœuvre aboutissait à faire séparer le grain et la paille. Maintenant, il y avait un autre travail qui était indispensable aussi à partir de ce fait de séparer le grain et la paille. Ils étaient séparés, mais ils étaient mélangés sur l'air. Il fallait les séparer. Alors, il y avait un autre travail, pas facile non plus, qu'on appelait le vannage. Alors, ce travail s'effectuait, comme le dit son nom, avec un van. Qu'est-ce que c'est qu'un van ? Eh bien, c'est une fourche en bois, en général, qu'on trouve encore aujourd'hui chez certains bédouins, ça se pratique plus beaucoup, mais ça se fait encore. Et avec plusieurs dents. Et on attendait, en général, le soir pour effectuer ce travail, parce que le soir, en Israël, il y a toujours un vent qui vient de la mer, même en plein été. Et lorsque était levé ce vent, l'agriculteur, avec son van, prenait une pelletée de ce mélange de grains et de paille et il le jetait en l'air. Le grain, qui était plus lourd, retombait sur place. Et la paille, qui était plus légère, était emportée par ce vent qui venait de la mer. Et au bout d'un temps, la paille et le bon grain étaient séparés. Et je renvoie spécialement ici à une parabole de Jean-Baptiste qui annonçait justement le jugement de Dieu au dernier jour par l'intermédiaire du Messie. Et parlant du Messie, il disait ceci, « Il a son van à la main, il nettoiera son air, il séparera la paille du bon grain, le bon grain, il l'engrangera dans les greniers et la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Et là, nous comprenons l'image de cette action de vanner la récolte. C'est une image du jugement dernier. Et vous retrouvez cette image de cette grande séparation, de ce grand tri au dernier jour qui sera la marque justement de la venue la deuxième venue de Jésus, pendant toute cette période de la bonté de Dieu dont nous avons parlé, symbolisée par ces premières pluies, les yorées, alors il y aura une autre où Dieu laisse les choses aller ensemble. Les méchants et les bons croissent ensemble. Il fait lever son soleil et tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants, sans aucune distinction. Et il peut sembler qu'il n'y ait pas de différence entre les uns et les autres. Autre parabole qui va dans le même sens, c'est le bon grain livré. Livré, elle pousse avec le bon grain sans que Dieu autorise ses serviteurs à aller couper cet ivraie. On retrouve ça aussi dans la parabole du filet, de la Seine, où ce filet ramasse toutes sortes de poissons, des bons et des mauvais, c'est-à-dire des poissons cachers et des poissons non cachers, des poissons comestibles selon la loi juive et non comestibles selon la loi juive. Et tout ça, ça vient ensemble. Mais quand vient le temps de Dieu, le temps de la venue du royaume, le temps de la moisson, il y a séparation. Ceux qui ont cru ensemble, ceux qui ont été ensemble, sont séparés. Et comme disait le prophète Malachi, alors on voit la différence entre le juste et le méchant, celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le bon grain est engrangé dans les greniers, livré et brûlé au feu. Les anges font le tri entre les poissons cachers et les poissons non cachers. Les poissons non cachers sont rejetés, ça veut dire qu'ils sont exclus de la bénédiction de Dieu, et comme livrés, ils vont évidemment dans ce lieu de tourment qui est la marque du jugement de Dieu au dernier jour. Et là, ce temps de vannage est bel et bien l'image de ce jugement dernier qui aura lieu au temps de la fin. Et puis, il y a une autre étape de la fabrication du blé. C'est le criblage. Il faut le moudre. Alors ça, il y a des moulins spéciaux, meules de moulin, on en voit encore. Ce sont des grosses roues de basalte ou même parfois de granit carrément, avec un trou au milieu. C'est en général sur à peu près cette hauteur-là, avec un trou au milieu où on passe une poutre. Et sur aussi un socle de pierre avec en forme de cercle, on fait rouler cette grosse pierre en la faisant pivoter avec aussi une bête de somme, un âne ou deux ânes parfois, ou si elle est trop lourde, et elle écrase évidemment le blé. Cette farine récoltée, il faut la vanner. Il faut la cribler. Et la cribler, c'est une espèce de passoire pour la séparer justement de toutes les impuretés. Et cette dernière étape est une étape très importante parce que ça va déterminer la qualité de la farine. Il ne faut pas qu'il y ait d'impuretés pour qu'elle soit notamment présentable au Seigneur, qu'elle soit ce meilleur froment par lequel justement on va honorer le Seigneur dans le temple, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et Amos, au chapitre 9, verset 9 en particulier de son livre, évoque ce criblage d'Israël au temps de la fin. Israël va être criblé. Or, contrairement à ce que nous pouvons penser, le criblage, c'est aussi une sorte de jugement, c'est vrai, parce qu'il y a séparation de ce qui est pur et de ce qui est impur, mais c'est à l'intérieur de l'individu. Ce n'est pas pour ce qui est de la communauté, comme nous avons vu tout à l'heure pour le vannage. Mais là, c'est à l'intérieur de l'individu. Dieu fait passer son peuple au crible. Ça veut dire qu'il va séparer tout ce qui est pur et tout ce qui est impur en lui pour qu'il soit une offrande qui soit acceptable, qui soit agréable, cette offrande de fleurs de farine qui était indispensable aussi parmi les offrandes qu'on offrait au Seigneur dans le temple. Et j'ai dit que le moyen de ce criblage, oui, qui va concerner le peuple d'Israël, ça va être son exil parmi les nations. Parmi les nations, Israël va être passé au crible pour que tout ce qui est impur soit ôté et que lorsque le Seigneur le ramènera dans son pays au temps de la fin, eh bien, il soit prêt pour ce temps où il deviendra ce pain qui va pouvoir être ici offert au Seigneur et qui va pouvoir être agréable et qui va pouvoir lui être présenté d'une manière positive. Vous savez que Jésus dira aussi la même chose, par exemple, à Pierre. Pierre, avant sa passion, lui dit « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. » Satan peut être l'instrument de ce criblage, mais Le criblage en dernier ressort est toujours une bénédiction. Mais j'ai prié pour toi, dira le Seigneur à Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Et de fait, après cette défaillance qui va mettre en évidence tout le caractère non sanctifié encore de Pierre, prétentieux, qui n'avait pas conscience de ses propres failles, de ses propres limites, mais justement ce criblage terrible dans lequel Pierre va être placé va lui permettre de prendre conscience de ses propres lacunes, de ses propres faiblesses, et ensuite de ressortir beaucoup plus fort quand le Seigneur l'aura rétabli et quand le Seigneur l'aura béni. Et Paul nous parle aussi, Jacques nous parle aussi, Pierre, aussi dans ses épîtres, du fait que le Seigneur permet le criblage de ses enfants, le criblage de nos vies par des difficultés, par des épreuves, laissant à Satan une certaine marge de liberté justement pour nous éprouver, mais le but étant aussi de séparer ce qui est pur de ce qui est impur de nos vies et de permettre que nous soyons ensuite des offrandes agréables au dernier jour quand le Seigneur reviendra. J'ai encore un peu de temps. Oui, j'ai encore 5 minutes. Je vais donc aborder très rapidement maintenant ce qui concerne la vigne. La vigne, c'est le deuxième produit très important de ces trois espèces du pays de Canaan, le pain, le vin et l'huile. Le pain qui soutient le cœur de l'homme, psaume 104, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. C'est très important d'évoquer cette réalité parce que, le vin, évidemment, il ne faut pas en abuser, et la Bible nous met en garde à ce niveau-là, mais c'est un des produits essentiels aussi du pays de Canaan. Il était très prisé dans le monde antique et c'était aussi un des principaux produits d'exportation du peuple d'Israël. Le vin, effectivement, c'est quelque chose qui produit une certaine euphorie quand on en boit modérément, et il est le symbole de la joie, et plus particulièrement de la joie messianique. Le temps messianique, dans la Bible, est comparé à un festin de noces. Festin, d'abord, et noces, ensuite. Pourquoi ? Parce que nous disent les sages, ce qui va marquer le temps messianique, c'est la joie. Et tous les prophètes soulignent cet élément essentiel du temps messianique. Bon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, en citant le psaume 126, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence reviendra chargé de gerbes quand il portera ses gerbes. » Je vous renvoie aux béatitudes aussi. « Heureux ceux qui sont pauvres maintenant, heureux ceux qui pleurent maintenant. » Parce que quand le royaume de Dieu sera venu, ils seront dans la joie. Et la venue du royaume va changer la tristesse en joie. Et c'est la raison pour laquelle la venue du royaume est comparée à un festin de noces. Et lorsque Jésus a parlé de la deuxième venue, j'ai parlé tout à l'heure des paraboles qui concernent la première venue, et que Jésus compare à un temps de moisson, à un temps de semaille, et il compare aussi, nous l'avons vu, sa deuxième venue à la moisson, mais aussi à un festin de noces. Et vous avez de nombreuses paraboles qui évoquent justement la venue du royaume comme un temps de noces. La parabole du grand festin, le roi qui fait des noces pour son fils, aussi d'une certaine manière, la parabole du fils prodigue, ce n'est pas un festin de noces, mais c'est un festin quand même. Quand le fils revient à la maison, eh bien le père offre un grand festin. On trouve ça avec la parabole des 10 vierges, on trouve ça dans d'autres paraboles aussi qui reprennent ce thème, très courant d'ailleurs dans la littérature rabbinique de l'époque, de la venue du royaume comparée à un mariage. Pourquoi un mariage ? À cause de la joie, et parce que, disent les sages, le jour du mariage est le jour de la plus grande joie qu'un homme et une femme puissent connaître dans leur vie. Et c'est pourquoi le royaume de Dieu est comparé justement à une noce. Le festin des noces de l'agneau, etc. Et bien entendu, il n'y a pas de noces sans vin. Et je vous renvoie notamment à l'épisode des noces de Cana, où donc Jésus va changer l'eau en vin parce que justement il n'y a plus de vin, il n'y a plus de joie. Les noces de Cana, telles qu'elles nous sont présentées dans l'évangile de Jean, ne sont pas un épisode isolé et seulement le fait du premier miracle que fait Jésus, c'est le premier miracle, mais il se trouve que c'est justement un miracle qu'il fait de changer l'eau en vin à cette noce. Pourquoi ? Parce que ces noces-là, ces noces de campagne d'un couple quelque peu insignifiant finalement, ils n'avaient même pas de quoi se payer suffisamment de vin pour les inviter, donc ça prouve que c'était quand même des gens relativement modestes. Et c'est le symbole de ce que sera au temps de la fin. Et quand Marie vient lui dire en aparté, tu sais, ils n'ont plus de vin, Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire l'heure du festin des noces de l'agneau, l'heure où aura lieu justement ce dont les noces de Cana ne sont qu'un symbole, qu'une anticipation, un signe prophétique, la venue du royaume, la venue du Fils de l'homme en tant que époux qui viendra au dernier jour. L'époux, c'était aussi un des noms du Messie. C'était tiré du Cantique des Cantiques, où à l'époque de Jésus, on commençait à interpréter le Cantique des Cantiques comme une parabole entre le temps de la fin où le Messie, l'époux, épouserait donc Israël, l'épouse, réépouserait en fait. Parce que c'était en quelque sorte, après le Sinaï, c'était une seconde noce. Et un des noms du Messie, c'était l'époux. Vous retrouvez ça aussi, par exemple, dans la bouche de Jean-Baptiste. On lui demande, est-ce que tu es le Messie ? Il dit, non, je ne suis pas. Je suis simplement l'ami de l'époux. L'époux, tout le monde comprenait à cette époque-là à quoi Jésus faisait allusion. C'était le Messie. Il était l'ami du Messie. Bon, la parabole des 10 vierges, comme l'époux tardait. Là aussi, tout le monde comprend que l'époux, c'est le Messie. Bien. Donc, l'époux, c'est celui qui, au dernier jour, va manifester cette joie extraordinaire que sera justement le fait qu'il va donner un vin nouveau, ce vin qui réjouit le cœur de l'homme, comme nous l'avons vu dans le psaume 104 que nous avons évoqué tout à l'heure. Le pain, ce sont les besoins de l'homme. Bon, quand on est rassasié, on a mangé, on est satisfait, c'est sûr, mais ce n'est pas forcément une grande joie. Tandis que le vin représente ce surcroît de joie, ce surcroît de bénédiction qui vient lorsque le peuple d'Israël a été ce qui est nécessaire. Elle est du luxe. Mais justement, dans les derniers temps, Dieu ne refusera aucun bien à ses enfants. Et d'autant plus qu'ils en auront été privés pendant tout ce temps où ils auront été justement dans... comme ces semeurs qui doivent semer dans les larmes. Mais quand viendra justement le temps messianique, eh bien, ils seront remplis de joie et remplis d'allégresse. Le vin, c'est aussi un produit qui a besoin de beaucoup de travail. Mais ça, peut-être, je vais le laisser pour tout à l'heure, puisque là, maintenant, je vais parler à peu près une heure. On va peut-être s'arrêter là pour le moment. Et je reparlerai tout à l'heure plus longuement du vin et de l'huile. Mais pour le moment, je voudrais simplement rester sur cette idée que, voyez-vous, il y a, au travers de ces travaux des champs, qui sont une spécificité du peuple d'Israël dans sa terre. Le peuple d'Israël, pendant toute son errance, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée du pays de Canaan, était devenu un peuple d'éleveurs, de bédouins. Et à partir du moment où il entre dans le pays promis, il devient un peuple d'agriculteurs. L'élevage a nettement moins d'importance, et ce qui est maintenant important, eh bien, c'est l'agriculture. C'est d'ailleurs la grande différence jusqu'à aujourd'hui entre la population arabe d'Israël et la population israélite, même dans la langue. Nous avons vu que le pain est le symbole de tous les besoins de l'homme en hébreu. Parce que le pain, c'est la base de son alimentation. En arabe, ce qui est la base des besoins de l'homme, c'est la viande. Parce que les peuples arabes étaient bédouins, et par conséquent, ils étaient éleveurs, en opposition au peuple d'Israël. Et quand on parle du pain en hébreu, en arabe, on parle de la viande. Et le peuple d'Israël va changer donc de mode de vie, d'un peuple qui est un peuple d'éleveurs, de nomades, comme le sont l'étaient jusqu'à une époque récente les Arabes, il va devenir un peuple d'agriculteurs. Et ces produits de base, qui vont faire maintenant l'essentiel de sa production et de son alimentation, vont devenir des symboles de réalité spirituelle. Et il y a, comme nous allons le voir demain, un pain d'en bas et un pain d'en haut. Il y a un vin d'en bas et un vin d'en haut. Il y a une huile d'en bas et il y a une huile d'en haut. Et il y a une correspondance entre le ciel et la terre. Peut-être demain, je vous parlerai du Notre Père, et notamment de cette demande centrale, donne-nous aujourd'hui notre pain. Le pain, c'est véritablement le centre de la prière du Seigneur. Il y a 7 demandes dans la prière du Seigneur, et la demande du pain occupe la partie centrale de la prière. C'est donc quelque chose qui nous montre à quel point c'est quelque chose d'important que cette notion du pain. Mais le pain, c'est beaucoup plus que tout simplement le pain terrestre. Nous avons ici affaire à un pain céleste, et de la même manière, nous avons aussi affaire à un vin céleste, à une nourriture céleste auquel nous renvoie ces réalités. Et la prière de notre Père nous parle du ciel et de la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que pour la Bible, le ciel et la terre sont en relation constante. Dieu crée le ciel et la terre au commencement, ça veut dire qu'il nous crée le monde matériel, la terre, et le monde spirituel, le ciel. Et il y a un renvoi constant de l'un à l'autre. Et l'homme pécheur est incapable de voir cette relation entre le ciel et la terre. Il ne voit pas justement ces réalités spirituelles qui se cachent derrière les choses les plus humbles de la terre. Mais, comme le dira Jésus à Nicodème, celui qui est né de nouveau, celui qui est né de l'Esprit, il peut voir le royaume des cieux. Il peut voir cette correspondance entre les deux. Et c'est la raison pour laquelle Jésus parlait en parabole, et notamment de ces paroles, beaucoup de ces paraboles qui étaient tirées de l'agriculture, parce que justement, elles renvoient aux réalités spirituelles. Mais, comme le dit Jésus quand il demande « Pourquoi tu parles en parabole ?» Il dit « Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas la relation. » Et quand Jésus parlera du pain de vie, par exemple, dans la synagogue de Capernaum, comme on le voit dans Jean 6, eh bien, il dit « Mais vous n'avez pas compris. Vous avez mangé le pain de la terre, le pain que j'ai multiplié. Mais vous n'avez pas compris que ce pain, il renvoie à un autre pain. Et c'est celui-là le pain le plus important. » Et Jésus dira à ses disciples, « Mais vous, vous êtes heureux parce que vous, vous voyez ce que les autres ne voient pas. Vous comprenez ce que les autres ne comprennent pas. Vous comprenez cette relation qu'il y a entre le ciel et la terre, entre le pain de la terre et le pain du ciel, entre le vin de la terre et le vin du ciel, etc. » Alors ça, c'est la chose importante aussi pour nous. La parabole, c'est ça, c'est quelque chose qui nous renvoie à partir des choses de la terre jusqu'aux choses célestes, jusqu'aux choses qui sont cachées aux yeux de l'homme, mais qui nous sont révélés par l'Esprit, parce que l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment, et puis on reprendra tout à l'heure.
Merci. On va pouvoir prendre un temps de pause.